chapitre 16 de l'Apocalypse. Et j'entendis une voix forte qui venait du temple et qui disait aux sept anges, « Allez et versez sur la terre les sept coupes de la colère de Dieu. » Le premier alla et il versa sa coupe sur la terre. Et un ulcère malin et douloureux frappa les hommes qui avaient la marque de la bête et qui adoraient son image. Le second versa sa coupe dans la mer, et elle devint du sang, comme celui d'un mort. Et tout être vivant mourut, tout ce qui était dans la mer. Le troisième versa sa coupe dans les fleuves et dans les sources d'eau, et ils devinrent du sang. Et j'entendis l'ange des eaux qui disait, « Tu es juste, toi qui es et qui étais, tu es saint, parce que tu as exercé ce jugement. » Car ils ont versé le sang des saints et des prophètes, et tu leur as donné du sang à boire, et ils en sont dignes. Et j'entendis l'autel qui disait, « Oui, Seigneur Dieu, Tout-Puissant, tes jugements sont véritables et justes. » Le quatrième versa sa coupe sur le soleil, et il lui fut donné de brûler les hommes par le feu, et les hommes furent brûlés par une grande chaleur, et ils blasphémèrent le nom du Dieu qui a l'autorité sur ses fléaux, et ils ne se repentirent pas pour lui donner gloire. Le cinquième versa sa coupe sur le trône de la bête, et son royaume fut couvert de ténèbres, et les hommes se mordaient la langue de douleur, et ils blasphémèrent le Dieu du ciel à cause de leurs douleurs et de leurs ulcères, et ils ne se repentirent pas de leurs œuvres. Le sixième versa sa coupe sur le grand fleuve, l'Euphrate, et son eau tarit, afin que le chemin des rois venant de l'Orient fût préparé. Et je vis sortir de la bouche du dragon et de la bouche de la bête, et de la bouche du faux prophète, trois esprits impurs semblables à des grenouilles, car ce sont des esprits de démons qui font des prodiges et qui vont vers les rois de toute la terre afin de les rassembler pour le combat du grand jour du Dieu Tout-Puissant. Voici, je viens comme un voleur. Heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voit pas sa honte. Ils les rassemblèrent dans le lieu appelé en hébreu Armageddon. Le septième versa sa coupe dans l'air, et il sortit du temple, du trône, une voix forte qui disait « C'en est fait !» Et il y eut des éclairs, des voix, des tonnerres et un grand tremblement de terre, tel qu'il n'y avait jamais eu, depuis que l'homme est sur la terre, un aussi grand tremblement. Et la grande ville fut divisée en trois parties. Et les villes des nations tombèrent, et Dieu se souvint de Babylone la grande pour lui donner la coupe du vin de son ardente colère. Et toutes les îles s'enfuirent, et les montagnes ne furent plus retrouvées. Et une grosse grêle dont les grêlons pesaient un talent tomba du ciel sur les hommes, et les hommes blasphémèrent Dieu à cause du fléau de la grêle, parce que ce fléau était très grand. Voici les sept coupes de la colère de Dieu. Alors, nous avons successivement les sept anges qui versent sur la terre leur coupe. À la première coupe du premier ange, un événement se produit, c'est une sorte de maladie. Un ulcère malin et douloureux frappa les hommes qui avaient la marque de la bête et qui adoraient son image. Les hommes qui sont soumis à l'Antichrist. Alors là, évidemment, nous comprenons très facilement que ces gens-là soient frappés par un mal. Et nous avons tout lieu d'admettre que ce mal est physique, c'est une maladie, un ulcère malin. Et je pense que la médecine sera bien en peine à ce moment-là d'y remédier. Le deuxième ange verse sa coupe dans la mer. Dans la mer, et la mer devient du sang cadavéreux, du sang comme celui d'un mort, du sang cadavéreux. Ce doit être horrible, ça. Il s'ensuit la mort de tout être vivant dans la mer. Tout être vivant mourut, tout ce qui était dans la mer. Là, il n'y a pas de proportion d'un tiers, comme dans les trompettes, c'est la totalité. Ça, alors là, c'est vraiment... Alors là, nous sommes vraiment dans les jugements de Dieu. Ce ne sont plus des avertissements, les trompettes, ce sont encore des avertissements. L'instrument même de la trompette l'indique bien, mais là, ici, c'est véritablement le terrible jugement. Le troisième versa sa coupe dans les fleuves et les sources d'eau. Nous avions vu ça aussi dans les trompettes, n'est-ce pas? C'est la terre, la mer, les sources d'eau. Jean entend un ange proclamer la justice de ce terrible jugement, parce que les fleuves et les sources d'eau deviennent elles aussi du sang et du sang cadavéreux. Le jugement apparaît plus particulièrement comme la contrepartie des infâmes mis à mort des fidèles serviteurs de Dieu. La terre aura eu vite fait de supprimer ceux qu'elle jugeait indésirables, parce qu'ils parlaient de Dieu, ils parlaient par conséquent d'obéissance à la parole de Dieu, et combien d'hommes et de femmes aussi ont été martyrisés. Eh bien, c'est une contrepartie, c'est le texte lui-même qui nous l'indique. Le quatrième ange versa sa coupe sur le soleil. Soudain, le soleil répand une chaleur brûlante. En somme, le bienfait du rayonnement solaire normal, qui est ajusté à l'homme, il y a un équilibre merveilleux, n'est-ce pas, dans la nature. Nous savons qu'il y a un voile d'ozone pour arrêter le rayonnement ultraviolet, arrêter dans la proportion nécessaire ce rayonnement ultraviolet de façon à ce qu'il ne nous occasionne pas de brûlure, de désordre. Et ce voile, d'ailleurs, avec nos lancements dans l'espace, on le déchire, on le lacère, et cela n'est pas sans conséquence. Mais là, nous ne savons par quel processus le soleil se met à répandre une chaleur torride, brûlante même. Et le bienfait normal du rayonnement solaire se change en une action néfaste et douloureuse. En somme, le mal que font les hommes détruit le bien que Dieu leur fait. Par le soleil, Dieu leur fait du bien, les fait vivre, a composé, il a organisé un cadre de vie qui correspond à l'organisme humain. Tout est dans un bon équilibre, mais le mal que les hommes ont fait sur la terre parvient. Le cinquième versa sa coupe sur le trône de la bête. Alors là, ou encore, n'est-ce pas, nous pouvons dire, eh bien, il a ce qu'il a cherché. Bon. Sur le trône de la bête. La bête est venue pour s'opposer radicalement à Dieu, pour se substituer à Dieu, ce qui a toujours été, d'ailleurs, le principe de Satan. Satan a voulu s'élever au-dessus du Très-Haut et se mettre à la place de Dieu. Il voulait, en somme, avoir son univers à lui, distinct de celui de Dieu, et naturellement le constituer en ravageant celui de Dieu. Ça, cela a été son principe depuis le départ. Alors maintenant, son royaume, le royaume de l'Antichrist, c'est-à-dire en somme de Satan, puisque Satan est dans l'Antichrist, ce royaume est couvert de ténèbres. Alors nous pensons que on peut prendre ça dans un sens littéral, les ténèbres comme ce fut le cas en Égypte. Et ces ténèbres en Égypte avaient provoqué un effroi extraordinaire. Nous savons ce qu'est une nuit noire. Ça ne nous met pas quand même dans un état d'apeurement tellement grand, n'est-ce pas? Mais là, il s'agit de ténèbres profondes que nous ne pouvons sans doute pas nous représenter. En Égypte, ça avait été vraiment saisissant. Alors là, les ténèbres et les hommes se mordaient la langue de douleur. Et ils blasphémèrent le Dieu du ciel à cause de leur douleur et de leurs ulcères, et ne se repentirent pas de leurs œuvres. Là, on pourrait penser que les hommes vont encore réfléchir et se dire, il y a quelque chose là de surnaturel, ce n'est pas normal, nous n'avons jamais vu ça. Nous avons eu la nuit, mais nous n'avons jamais eu de pareilles ténèbres. Alors, ils éprouvent de la douleur. Et ils pourraient s'humilier. Non, vous voyez comme le cœur de l'homme résiste à Dieu, résiste dans cette invitation, et résiste à cette invitation de revenir à Dieu par le moyen de l'humiliation et de la repentance. Sixième coupe. Alors, cette coupe, elle est versée sur le grand fleuve l'Euphrate et son eau tarie. Il est possible que ce soit littéral, l'accomplissement soit littéral. Mais ce que nous voyons surtout, et c'est ce à quoi le texte nous invite, c'est que le chemin des rois venant de l'Orient fut préparé. L'Euphrate est la séparation entre l'Europe et l'Asie. Alors ça veut dire que là, il y a une possibilité, il va y avoir une invasion de l'Asie, des peuples d'Asie sur l'Occident. Alors, l'Asie, on peut aller jusqu'à penser au peuple jaune, à la Chine, hein, la Chine est un réservoir d'hommes énormes, et alors si jamais les Chinois viennent là avec tout le matériel qu'ils sont en train de constituer et qu'ils vont constituer très rapidement, ce sera évidemment une invasion terrible. Alors, nous pouvons très bien interpréter le texte de cette manière-là. Alors, à ce moment-là, et avant certainement que l'invasion des rois de l'Orient ne s'opère, nous voyons que le dragon, la bête, c'est le dragon, c'est-à-dire le Satan lui-même, la bête, l'Antichrist, le faux prophète, qui sont trois esprits impurs, semblables à des grenouilles. Pourquoi semblables à des grenouilles? Parce que là, Jean les voit en somme trois bouches ouvertes. Les grenouilles, quand on regarde une grenouille, on voit surtout, n'est-ce pas, une bouche grande ouverte. Enfin, il y a le jeu de grenouilles. Autrefois, il y avait un jeu de grenouilles. On lançait des pièces dedans, et les grenouilles, c'était une grande bouche ouverte. Et c'est ainsi, c'est ce qui justifie ce texte. Alors donc, cette vision de trois grenouilles signifie, n'est-ce pas, que les trois esprits impurs haranguent la terre. Ils parlent, ils déversent sur la terre toutes sortes de mots d'ordre, d'invitation pour rassembler, pour faire en somme une mobilisation générale de la terre. Ainsi, les trois membres de la Trinité, là nous avons la Trinité bien constituée, rassemblée, les trois membres de la Trinité satanique ouvrent une grande bouche pour appeler les rois de toute la terre opérer une mobilisation générale afin d'intervenir en force contre Jérusalem. Intervenir en force contre Jérusalem, et nous voyons ce que ça va donner si nous nous reportons au livre de Zacharie. Zacharie, chapitre 14, verset 1. Prenons Zacharie 14, verset 1. « Voici le jour de l'Éternel arrive, et tes dépouilles seront partagées au milieu de toi. Je rassemblerai toutes les nations pour qu'elles attaquent Jérusalem. » Vous voyez, « je rassemblerai toutes les nations ». Là, c'est Dieu qui le dit, mais nous sommes habitués à ce langage dans certains événements du passé. Il était dit Dieu fit ceci, et puis dans un passage équivalent, on voit que c'est Satan qui le fait. En réalité, Dieu laisse Satan faire cela. Hein? Donc, je rassemblerai toutes les nations afin qu'elles attaquent Jérusalem. C'est ce que font ces trois grenouilles, là, ces trois esprits impurs, n'est-ce pas? Ils appellent à la mobilisation générale. Ils rassemblent les nations pour qu'elles attaquent Jérusalem. Parce qu'à ce moment-là, à Jérusalem, il y a quoi donc? Il y a ce reste d'Israël qui est gardé, nous l'avons vu au chapitre 12, gardé par Dieu, et c'est un reste qui s'est converti, qui est chrétien. Il n'est pas ressuscité, sont encore dans le corps actuel, mais ils sont chrétiens, et ils sont dans une ferveur extraordinaire. Le diable a eu beau lancer son fleuve d'iniquité pour essayer de les engloutir, il n'y a pas réussi puisque Dieu est intervenu. Voyons que Dieu, n'est-ce pas, nous garde contre les excès du diable. Le diable pourrait tenter contre nous des actions déterminantes auxquelles nous ne pourrions pas résister, mais il nous garde. C'est pourquoi il faut que nous nous gardions nous-mêmes, dans la mesure où nous le pouvons. Hein? Dieu nous gardera si nous sommes fidèles. Oh, c'est bien ça. Si nous sommes fidèles, la condition est là. Hein? Alors attention à l'Église aussi avant son enlèvement. Hein? Si nous ne sommes pas, je m'appuie surtout, comme je vous l'ai déjà dit, sur la lettre de Jésus à Philadelphie, l'Église de Philadelphie. Hein? Si nous n'avons pas gardé la parole de persévérance en Jésus, la consigne de persévérer en Jésus, dans l'esprit de Jésus, dans les œuvres de Jésus, nous ne serons pas gardés par le Seigneur et nous ne pourrons pas nous garder nous-mêmes de la séduction. Je le rappelle à nouveau, ça c'est tellement important. Alors donc, Jérusalem, là il y a un peuple chrétien, le reste d'Israël qui est converti. Alors le diable s'en inquiète, parce que comme je vous le disais, il faut que Jésus, quand il va descendre, et là nous sommes tout près de sa parousie, lorsqu'il va descendre sur la terre, il faut nécessairement qu'il y ait des amis, des fidèles qui le reçoivent. Il ne peut pas être reçu par des ennemis. Les ennemis, ils vont tourner contre lui ses canons, et si Jésus, par exemple, descendait qu'il n'y ait que des ennemis sur la terre, absolument que des ennemis, mais il n'a plus qu'à détruire toute la terre. Il n'a plus rien à faire. Si tout était à l'Antichrist, si tout appartenait à l'Antichrist sur la terre, eh bien, alors là, il n'y a pas de millénium à envisager, Jésus n'a qu'à détruire la terre, un point c'est tout. Mais vous voyez que ce reste d'Israël qui est à Jérusalem, dans son lieu, le lieu préparé par Dieu d'avance, eh bien, ce reste joue un rôle. Israël joue à la fin un rôle important. L'Église est partie, l'Église est aux noces, et elle redescend avec le Seigneur, elle est ressuscitée, pour elle, tout est fini. tout est fini. Enfin, elle aura une mission dans le millénium et même après, mais tout est fini pour elle. La résurrection ayant eu lieu, tout est fini. Il y a eu la présentation à Dieu le Père, Jésus a confessé toute son Église devant Dieu le Père, il y a eu les noces, aux noces de l'agneau. Dieu est présent. Ça se déroule devant Dieu, ça. Enfin, alors, pour l'Église, tout est achevé. Mais il faut que le Seigneur Jésus trouve un peuple ami, un peuple fidèle. Et c'est ce reste d'Israël qui va l'accueillir. C'est curieux qu'on n'ait jamais voulu entendre ça. Qu'est-ce qu'on voit dans les interprétations courantes? Eh bien, Israël va se convertir quand Jésus descendra et quand il verra Jésus. Se convertir par la vue, on accepte ça, tout simplement. Voilà une interprétation qu'on fait généralement. Mais enfin, je sais pas, moi, c'est... On médite la Bible, on ne médite pas la Bible, on l'interprète d'une façon généralement systématique et avec légèreté. Le peuple d'Israël a un rôle à jouer à la fin. Et c'est normal qu'il joue ce rôle. Le voilà, n'est-ce pas, le reste, le voilà repêché. C'est ce qui fait dire à Paul que tout Israël, en définitive, sera sauvé. Pas tous les hommes qui ont constitué Israël, mais tout le peuple d'Israël, c'est-à-dire qu'il n'en restera plus du tout sur la terre, qui ne soit ou bien mort, ou bien appartenant à ce reste. Mais le diable craint ça. Il y a là ce reste d'Israël, cette fraction tardive de l'Église, et qui va recevoir celui qui descend des cieux. Et nous voyons bien, nous le verrons au chapitre 19, que le diable veut s'opposer à la descente de Christ. Il ne veut pas que Christ vienne. Il est l'antichrist, il a pris la place du Christ. Il ne veut pas l'avenue du Christ. Il veut faire tout ce qu'il peut pour empêcher cela. Il veut garder la terre, il veut que son royaume sur la terre subsiste. Alors, ce reste d'Israël l'inquiète, l'ennuie considérablement. Alors là, mobilisation générale. Mobilisation générale. Et alors, là, n'est-ce pas, au chapitre 14 de Zacharie, « Je rassemblerai toutes les nations. La ville sera prise. » La ville sera prise. Vous vous rendez compte, Jérusalem va être prise. Alors que, dans ce même livre de Zacharie, il nous est dit auparavant que Israël, la maison de David, dispose d'une force extraordinaire et que ses ennemis ne peuvent rien. Ses ennemis, ils sont pris de troubles, de d'étourdissements. De tremblement, puis ils s'en vont. C'est ce qu'on a vu avec les attaques que les nations environnantes, n'est-ce pas, arabes, ont lancées contre lui, sont prises d'étourdissement. Mais là, voilà que, avec cette coalition de l'Antichrist, la ville de Jérusalem est prise. Ah, ça pose un problème. Il est dit d'autre part, il est dit dans Ézéchiel que quand le Seigneur rassemble son peuple dans son pays, la Palestine aujourd'hui, eh bien, c'est pour toujours, et il ne sera plus jamais dispersé. Hein? Bon. Mais là, la ville est prise. Alors, lisons un peu ça. La ville sera prise et les maisons seront pillées. Bon, ça, évidemment. Et les femmes violées. Hein? Oh, ça, il ne faut pas s'émouvoir de ça, enfin, je veux dire, il ne faut pas être en doute au sujet d'une mention comme celle-là, hein, parce que dans des événements actuels, cela se produit, littéralement, cela se produit. Je peux vous le dire, Nous avons été témoins de certains événements, n'est-ce pas, certaines guerres localisées, où la chose s'est produite. Par conséquent, ce n'est pas à dire que parce que nous sommes à l'époque moderne, ces choses-là ne sont plus possibles. C'est tout à fait possible. Bon, les femmes violées. La moitié de la ville ira en captivité. La moitié de la ville ira en captivité, mais le reste du peuple. Et par reste du peuple, il faut penser aussi à ce reste dont nous parle l'apôtre Paul. Un reste d'Israël. Le reste d'Israël qui va être à nouveau greffé sur son olivier franc. Le reste d'Israël ne sera pas exterminé de la ville, l'Éternel paraîtra et il combattra ses nations comme il combat au jour de la bataille. Ses pieds se poseront en ce jour sur la montagne des oliviers, qui est vis-à-vis de Jérusalem, du côté de l'Orient. La montagne des Oliviers se fendra par le milieu, à l'Orient et à l'Occident, c'est-à-dire que la coupure sera d'est en ouest, et il se formera une très grande vallée, une moitié de la montagne reculera vers le septentrion, vers le nord, et une moitié vers le midi. Voyez-vous, la coupure se fait dans le sens est-ouest ou ouest-est, et alors la montagne recule vers le nord, elle livre un passage, la partie du nord recule, la partie du midi recule aussi dans le sens du midi, si bien que ça ouvre une brèche très large. Vous fuirez alors dans la vallée de mes montagnes. Alors là, la moitié du peuple, celle qui n'est pas exterminée, qui n'est pas prise, n'est-ce pas, va fuir là, va passer par cette vallée, car la vallée des montagnes s'étendra jusqu'à Hazel, et Hazel désigne ici le centre de Jérusalem. Donc la brèche va être une route, une autoroute. Le Seigneur va faire et qui va aller jusqu'au cœur de Jérusalem de façon à donner le moyen de sortie à la moitié de la ville par là. Vous fuirez comme vous avez fui devant le tremblement de terre au temps d'Ozias, roi de Juda, et l'Éternel, mon Dieu, viendra et tous ses saints avec lui. J'espère que vous serez de la partie. Ah oui, il y a une sœur qui se dépêche là, n'est-ce pas, d'opiner. J'espère que vous opinez aussi. Être de la partie, tous les saints avec lui. Tous les saints, c'est toute l'Église, l'Église qui vient des noces de l'agneau. Bon, alors, que va-t-il se passer là? Quelque chose d'extrêmement merveilleux. Voilà, n'est-ce pas, le Seigneur descend. Bien, la guerre sévit. Et toutes les nations sont rassemblées là en raison de cette mobilisation générale qu'a opéré Satan lui-même qui s'en est mêlé directement, en plus de son homme, l'Antichrist, et du faux prophète. Tous les trois, ils ont là constitué des armées colossales. Et ils sont pas sûrs tellement de leur affaire, ils ne sont pas contentés même d'une grosse armée, ils ont voulu une mobilisation de tout. Et alors, ces nations attaquent Jérusalem. Et la ville est prise. Comment se fait-il que la ville soit prise? À cause de cette importance de la coalition? Non, non. Parce que si ça s'était produit plus tôt, même avec une coalition importante, et il y en a une coalition qui va venir bientôt, qui va descendre bientôt du RSS, selon Ézéchiel 38 et 39, la coalition de Gog et Magog, elle va être conséquente aussi, cette coalition-là. Elle va être écrasée sur les montagnes d'Israël. Bon, par conséquent, si ça s'était produit plus tôt, la ville n'aurait jamais été prise. Mais là, elle est prise. C'est le tout dernier moment, Jésus vient. Pourquoi est-elle prise? Eh bien, parce que le reste, il y a une partie de la ville, la moitié de la ville, il faut comprendre une fraction de la ville qui précisément n'est pas dans le même état spirituel que le reste d'Israël. Ce sont des gens, il y a des Israélites, il y a peut-être d'autres gens que les Israélites, et ces gens-là, bon, eh ben, ils sont à Jérusalem, ils sont pris, ils sont mis en captivité. Mais le reste, lui, Dieu ne veut pas qu'il soit touché. Seulement, ils sont chrétiens. Et maintenant, ils savent qu'ils n'ont plus à se servir des armes. Plus de chars, plus de canons, plus de missiles, plus d'avions, plus rien du tout. Il faut lire Zacharie, il faut l'étudier pour voir quel est l'état de sainteté de ce reste d'Israël. La consécration. Nous pouvons prendre des leçons de cette consécration. Eh bien, ils ne veulent plus toucher. On leur a fait souvent grief, nous, aux Juifs. On leur a dit, ah, bah oui, c'est le peuple de Dieu, mais enfin, tout de même, ils font la guerre, ils ont des canons, ils ont tout un matériel, n'est-ce pas, de guerre. Ah, bah oui, oui, oui. Et parce qu'ils sont pas chrétiens. Ils sont une nation pour l'instant. Et il faut qu'ils se défendent comme se défend une nation. Avec les moyens de défense d'une nation. Et il n'y a pas autre chose à faire ou alors mourir. Mais là, c'est différent. Ils sont chrétiens, ils ne se défendent pas. Ils comptent sur le Seigneur. Ils sont en train de prier. Ils prient, et ce doit être, vous savez, ardent, la prière. Hein? Ils prient, ils crient au Seigneur, ils se confient au Seigneur, et le Seigneur intervient. Alors, voici que Jésus descend. Là, vous avez compris que la montagne des Oliviers, qui forme obstacle du côté de l'Orient, hein, alors que les troupes viennent particulièrement de l'Occident, du Sud, de l'Occident et du Sud, alors là, si la montagne des Oliviers était restée en place, ils ne pouvaient pas passer, il fallait monter dessus, mais ça n'aurait pas été la même chose. Et puis, ça n'aurait pas eu le même sens. Alors, là, la montagne s'est ouverte, largement ouverte. Il y a une vallée qui s'est... une vallée, vous savez, le Seigneur va aplanir les vallées. Il n'y aura pas de cailloux. Et ce sera une chaussée praticable, tout à fait praticable. Alors, il ouvre cette vallée jusqu'au cœur de Jérusalem, et le peuple s'engage, là. Et je crois que le peuple va s'engager avec confiance, ils vont fuir, ne prenez pas le mot dans le sens trop habituel, courant. Fuir, ça veut dire s'en aller, quitter l'endroit où l'on est, n'est-ce pas, s'en aller. Ils vont s'en aller, peut-être en chantant. Et alors, ils vont passer dans cette vallée, au pied de celui qui est là. Le Seigneur est venu à poser ses pieds sur le mont des Oliviers. Il est là, en hauteur. Il est là. Et il passe à ses pieds. Et c'est à ce moment-là qu'ils reçoivent, si vous voulez, leur grande consécration. Quand ils étaient en Égypte, il a fallu qu'ils fuient à travers la mer Rouge, le bras de mer Rouge. Et Moïse était là. Moïse était là, qui a fendu la mer avec son bâton, il a fendu la mer, et le peuple est passé sous la conduite de Moïse. Ils ont, comme dit Paul dans 1 Corinthiens 10, été baptisés en Moïse. Hein? Et ils ont passé de l'autre côté, les Égyptiens avec leur armée ont été, eux, engloutis dans la mer. Mais là, ce n'est plus le Moïse d'autrefois. C'est le grand Moïse, si vous voulez, c'est le grand Salomon, c'est le Seigneur qui est là, n'est-ce pas, lui-même, et il vient pour régner, et alors ce peuple qui l'accueille passe à ses pieds, le Seigneur a fendu non pas la mer, mais la montagne elle-même. Il a fendu en somme l'obstacle le plus résistant, le plus dur, il a fendu la montagne et le peuple d'Israël converti passe à ses pieds et reçoit sa bénédiction. Ils sont, on peut dire, baptisés en Jésus-Christ. Ils avaient été autrefois baptisés en Moïse, ils sont baptisés en Jésus-Christ et ils sont prêts là pour la mission qui va être la leur pendant le millénium. Ils vont ensuite se développer, répandre leurs fruits sur toute la terre. Tout cela nous est exposé dans le Saint-Livre. Et c'est merveilleux. nous arrivons à... Ah oui, alors nous n'avons pas tout à fait terminé de méditer le rassemblement qu'opère la Trinité satanique. Nous lisons au verset 16 qu'il les rassemble, il rassemble les rois et les armées de ces rois dans le lieu appelé en hébreu Armageddon. Armageddon. Le septième ange versa sa coupe dans les bons Armageddon. Ce sera donc cette fameuse guerre dont on parle beaucoup, on parle surtout de celle-là, la guerre d'Armageddon. La comparaison des esprits impurs avec des grenouilles, bon, nous avons vu ce que ça signifie. La guerre d'Armageddon va se dérouler, donc ils sont là, va se dérouler dans la plaine de Jisréel, une grande plaine. Et puis, ça va embraser aussi Jérusalem, c'est-à-dire que là, en somme, ils vont s'étendre à peu près sur toute la Palestine, et puis leur but, c'est surtout de venir attaquer Jérusalem. Et là, il se passe ce que nous venons de voir. Ensuite, le septième ange, au verset 17, versa sa coupe dans l'air, il sortit du temple, du trône, une voix forte disant « C'en est fait ». Il y eut des éclairs, des voix, des tonnerres, un grand tremblement de terre. Un tremblement de terre d'une intensité exceptionnelle secoue donc la terre et fait trembler les villes. L'écorce terrestre subit des convulsions et se transforme. Le relief est bouleversé. Rome se partage, la grande ville se partage en trois parties. Enfin, des grelons d'un poids considérable, je n'ose pas traduire en poids actuel parce qu'on risque de se tromper, ils pèsent un talent, c'est très lourd, mais je ne veux pas chiffrer. Des grêlons, donc d'un poids considérable, bombardent la terre et occasionnent un surcroît de souffrance, poussant encore les hommes à blasphémer Dieu. Par ce blasphème, ils montrent qu'ils sont obligés d'admettre l'existence de Dieu devant les glorieuses épreuves qu'ils ne peuvent pas expliquer. S'ils blasphèment Dieu, c'est qu'ils croient que Dieu existe. Ils ne vont pas blasphémer le vide, blasphémer quelque chose d'inexistant. Ils croient donc que Dieu existe, voyez-vous. Ils croient que Dieu existe. Mais leur cœur reste irrémédiablement fermé. Un tel endurcissement nous apporte la leçon suivante. Il ne s'agit pas d'épreuves en ces jours-là, ce ne sont plus des épreuves, mais il s'agit de jugements. Ce sont les justes que Dieu éprouve. La Bible nous le dit, c'est le juste que Dieu éprouve. Mais ici, il s'agit de jugement. Les incrédules n'avaient précédemment qu'une seule voie possible pour obtenir la grâce du salut, celle de la foi et de la repentance, mais ils n'en veulent pas de cette voie-là. Ils n'en veulent pas. Ils sont fermés. L'homme est irrémédiablement pécheur. Et s'il n'exerce pas la foi, eh bien, alors il n'est bon que pour le jugement de Dieu.